Denis nous appelle au standard de France Inter. Denis qui a une question pour Eric Woerth. Bonjour et bienvenue sur l'antenne.
Je vous remercie. Donc oui, ma question auprès d'Eric Woerth, nouvellement élu président de la commission au sein de l'Assemblée. La Cour des comptes a établi un dérapage budgétaire de 9 milliards d'euros. Déjà, certains signes laissent apparaître que l'effort ira vers les fonctionnaires, puisqu'il a été déterminé qu'il y aura un gel de l'indice des fonctionnaires qui rapportera 2 milliards. Mais à côté de cela, sachant que l'ISF, lui, rapporte 4 milliards d'euros, on connaît aussi dans la prochaine réforme fiscale que l'ISF va être raboté de façon à ce que les plus riches soient encore épargnés. Je serais tenté de dire que là encore, sur un dérapage budgétaire dont on peut se poser des questions, s'il ne sert pas d'alibi encore pour aller vers plus d'autorité, j'aimerais savoir donc quelle position M. Woerth, président de la commission des finances, prendra dans ces cas-là. Je pense qu'il accompagnera bien entendu la politique de Macron.
Eric Woerth.
Oui, alors, merci pour votre question. L'audit de la Cour des comptes est assez traditionnel, hein, c'est il y a chaque année, donc je pense que le gouvernement a voulu placer à l'intérieur un audit. Juste un mot quand même, il y a une dramatisation de la part du gouvernement de cet audit. Il y a une mise en scène, tout est mis en scène durant ce début de quinquennat. Il y a une mise en scène totale de tout, du président, mais aussi de la politique. Et on voit bien que le gouvernement aimerait pouvoir dire la situation était dramatique et donc je la rétablis en peu de temps, donc je suis Superman. C'est un peu, au fond, l'idée générale. Le gouvernement n'est pas totalement irresponsable de ce qui s'est passé en 2016. Le président Macron était ministre, il a été pendant longtemps, en tout cas pendant quelques temps, il connaissait bien cette situation et la Cour des comptes d'ailleurs indique que dès 2016 ou mi-2016, on savait bien que ce budget était insincère. Nous l'avions dit avec Gilles Carrez, on l'avait dit à plusieurs reprises, on avait cité des chiffres à peu près de cette ampleur. Et malheureusement, personne n'a vu les choses. Donc il y a bien une insincérité. On est passé de l'insincérité d'une certaine manière constatée, parce que parfois des budgets explosent, à une insincérité voulue. C'est-à-dire que ça a été voulu par le précédent gouvernement, M. Macron y compris, de cacher ou de changer un certain nombre de choses, de sous-budgétiser des dépenses, de surestimer des recettes, de transférer des charges sur les années qui viennent. Et c'est tout cela qui complique la donne pour cette année, et qui la compliquera encore plus d'ailleurs pour 2018 et 2019. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois que ce qui est dit aujourd'hui par le gouvernement, et ce qui est repris d'ailleurs par un certain nombre de journaux ce matin, c'est de dire le gouvernement va remettre à plus tard les mesures proposées par M. Macron. Mais le programme de M. Macron, il était tellement flou qui permet absolument tout. Il n'a jamais eu donné de calendrier sur rien, et c'était des mesures en général suffisamment larges et peu précises. Je comprends.
Alors là, elles étaient précises, les mesures qui semblent reportées. Je comprends. La défiscalisation, oui, des heures sup, a priori repoussée. La réforme de l'ISF, qui devait rapporter moins, qui a donc un coût pour le budget de l'État, a priori repoussée aussi, nous disent ce matin les Échos. C'est la bonne solution ou pas?
Je comprends que le président de la République voudrait, on verra s'il le confirme, voudrait au fond d'abord faire passer les mesures de pouvoir d'achat avant les mesures pour les entreprises, c'est-à-dire les mesures de compétitivité, c'est-à-dire les mesures pour l'emploi, pour employer un terme plus simple et plus juste. Moi, je déconseille cela. Je pense qu'il faut d'abord travailler sur la compétitivité, d'abord assurer le socle économique de notre pays, un peu de croissance internationale, il y a de la croissance européenne, il faut la booster, il faut que la France fasse mieux que les autres pays. Et c'est parce qu'on fera mieux que les autres pays qu'on pourra distribuer plus de pouvoir d'achat. Si le gouvernement choisit les mesures de pouvoir d'achat avant les mesures de compétitivité pour les entreprises, il est dans un cycle électoraliste, au fond, traditionnel, il fait les trucs faciles avant de faire les trucs plus difficiles. L'ISF en fait partie, pour répondre à votre correspondant, à notre auditeur. Moi, je suis favorable, peut-être contrairement à ce qu'il dit, moi je suis favorable à une suppression complète de l'ISF. Monsieur Macron a indiqué qu'il ne supprimerait pas l'ISF d'une manière totale, puisqu'il garderait une sorte d'ISF sur l'immobilier, et puis tout le reste, il n'y aurait plus d'ISF. Si je comprends bien, il remettrait cette mesure comme d'autres, comme celle sur le CICE, comme la mesure sur les heures sup, et comme d'autres mesures. Je ne sais pas ce qui adviendra de la taxation du capital. Tout ça, ce sont des mesures d'attractivité, c'est des mesures de compétitivité, il y a aussi l'impôt sur les sociétés. Toutes ces mesures, il faut les prendre très vite. Il faut les prendre en début de quinquennat parce qu'elles prennent du temps pour s'installer dans l'économie française.
Je l'ai une nouvelle fois, le salaire des fonctionnaires, comme on l'a fait depuis.
Mais le problème, c'est pas
je crois, une exception près, oui, il y a eu une augmentation d'1,2% ces 7 dernières années.
J'ai été ministre de la fonction publique pendant 3 ans, on a lancé ce mouvement de gel, parce que la manière dont est rémunéré les fonctionnaires est vraiment très archaïque. Je pense qu'au contraire, il faut faire différemment, on n'a pas le temps d'en
faut
parler
s'habituer
ici,
au gel
écrit.
Sur des longues périodes, c'est ce que
vous
dites.
Je pense qu'il faut rémunérer autrement, il faut plus de rémunération au mérite, il faut des progressions dans les carrières. Vous savez, ce qui coûte cher, c'est pas tellement le gel coûte cher, enfin le point d'indice, mais ce qui coûte cher surtout, c'est ce qu'a mis en place le gouvernement Hollande à la fin de parcours. Ça s'appelle un plan de carrière des fonctionnaires, où on révise toutes les grilles. C'est très technique, mais c'est ça qui coûte cher. Et toutes ces grilles qui deviennent élastiques deviennent extrêmement coûteuses. Donc il faut une réforme assez en profondeur de la masse salariale, mais aussi de la manière dont on est fonctionnaire, la manière dont on estime sa carrière. Mais alors attention, une énorme mise en scène des erreurs fondamentales du gouvernement précédent, une insincérité voulue, auquel le gouvernement répond par une mise en scène, une dramatisation à son propre profit. Faut pas tomber non plus dans le panneau.
Dominique nous écrit via l'application France Inter. Nous sommes en déficit depuis plusieurs années. Combien va nous coûter le congrès de Versailles organisé par M. Macron? Je ne sais pas si vous êtes le plus à même de répondre à cette question, mais je vous la pose quand même.
Non, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été donnés. Je remarque qu'ils sont différents selon qu'on choisit tel ou tel type de scénario. C'est probablement de l'ordre de 200 à 300 000 euros, je pense, entre les salaires de ceux qui participent au congrès, l'aménagement de la salle, les retransmissions, tout cela. Donc c'est un coût. À la limite, ce coût, ça peut choquer. Pourquoi pas, si c'est pour dire quelque chose et si c'est pour réellement faire vivre la démocratie. Si c'est uniquement une mise en scène supplémentaire, jupitérienne, zeusienne ou je ne sais quoi, tout ça a peu d'intérêt.
Éric Woerth, j'ai une question toute simple. Quel est le patron aujourd'hui de la droite ?
Il y a plusieurs patrons aujourd'hui, vous savez bien
que
il y a plusieurs patrons. Il y a à la fois un secrétaire général des Républicains, qui est Bernard Accoyer, qui fait bien, très très bien son travail. Il y a un patron du groupe à l'Assemblée nationale, qui est Christian Jacob. Il y a un patron du groupe au Sénat, qui est Bruno Retailleau. Ouais.
Voilà, ça fait trois patrons, ça fait beaucoup de patrons.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais vous savez, il y a une élection qui doit venir cet automne au sein des Républicains. Ça fera l'objet sûrement beaucoup de débats, de prises de positions diverses et variées pour essayer de reconstituer un peu d'unité à la droite.
Je vais la poser différemment. L'unité, qui doit être le patron de la droite ?
C'est pas à moi de le dire. Il y aura des.
Pour vous.
Je pense qu'il y aura. Non, mais certainement. Je vais pas rentrer dans des noms. Je crois que la droite.
Derrière les noms, il y a aussi des lignes politiques.
Oui, c'est ça. Mais il y a toujours eu des lignes politiques.
Quelle est la ligne alors, justement ? Quelle est la ligne dominante ou quelle est, selon vous, la ligne qui doit être la ligne de la droite ?
Déjà, discutons-en. Enfin, vous voyez, on n'est pas besoin demain. On est dans l'opposition. Non, mais vous avez raison. On est dans l'opposition. Donc, on a peut-être quand même un tout petit peu de temps. Il faut qu'on fasse correctement notre travail.
Vous pensez que l'opposition doit être la ligne Wauquiez ? Parce qu'il y a des lignes.
Mais vous adoreriez. Vous adoreriez, je cite des noms.
Non,
je pense qu'il faut travailler sur ce que nous sommes. Maintenant, on peut le faire, on a du temps, on a perdu à peu près toutes les élections depuis 6 mois, donc on peut le faire. Donc travaillons là-dessus, je crois que Bernard Accoyer d'ailleurs y appelle et commence à lancer un travail. Puis après il y aura une élection au sein des Républicains, on verra comment se fait ce rassemblement. L'unité, elle a un prix, c'est tellement facile de se diviser. Tellement facile. D'ailleurs, c'est ce que veut le président de la République. Plein de morceaux de puzzle autour, et puis lui qui recolle tout. Donc c'est trop simple. La droite, elle existe. La droite, elle a une identité très forte. Elle a vécu sous forme de rassemblement depuis la création de l'UMP. On ne peut pas jeter tout cela on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Est-ce que vous avez perdu sur une ligne ou est-ce que vous avez perdu sur l'entêtement d'un homme ?
Je ne crois pas qu'on ait perdu sur une ligne, ou peut-être qu'à un moment donné, la primaire a trop radicalisé les choses. Je l'ai dit, sur une autre radio, j'ai dit à un moment donné que c'est pas la droite qui avait perdu, c'était François Fillon, parce que je pense réellement que des éléments extérieurs, c'est-à-dire les affaires, ont fait rendu totalement impossible, c'était mission impossible, la campagne de François Fillon. On a essayé de le faire. La primaire a aussi beaucoup compliqué les choses.
Est-ce qu'à un moment de la campagne, vous avez tenté de lui dire d'arrêter.
Oui, bien sûr.
De passer la main.
Mais évidemment, beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont fait. Je pense que François Fillon s'est posé la question lui-même. Mais l'engrenage de la primaire a fait que la réponse a été différente. Peut-être l'engrenage aussi d'un certain nombre d'entourages. Je pense qu'il était encore temps, à un moment donné, de changer de candidat. Est-ce que c'était possible ou pas? Je n'en sais rien. Mais je pense que cette question, elle s'est posée. Et la réponse a été apportée par François Fillon lui-même. Mais il était le seul à pouvoir la porter.
Alors oui et non. Puisqu'un livre qui sort ces jours-ci, signé de Georges Fenech, ancien député Les Républicains, vous connaissez bien, sarkozyste comme vous.
Un des premiers à avoir demandé à François Fillon de renoncer. D'ailleurs.
Affirme que François Fillon a menti au plus fort de l'affaire lors d'un coup de fil à Alain Juppé. Il aurait dit à Alain Juppé que Nicolas Sarkozy s'opposait à ce qu'il renonce et à ce qu'Alain Juppé le remplace. Le camp de Nicolas Sarkozy lui-même a confirmé cette version ce week-end, celle d'un mensonge de François Fillon pour rester en place.
Enfin, Nicolas Sarkozy a agi dans les derniers moments, un moment où il fallait agir, pour essayer d'expliquer que les choses probablement se passeraient mal et que peut-être fallait-il réfléchir à changer de candidat. Alain Juppé pouvait être celui-là, s'il le souhaitait, ou d'autres, mais il fallait que ce soit avec l'accord de François Fillon. Cet accord n'est pas venu. Ça, c'est l'histoire, c'est le passé. On a perdu, on en paye le prix fort, et j'espère que la France n'en paiera pas le prix fort. Maintenant, à nous de nous reconstituer. Et je ne crois pas que la meilleure façon de se reconstituer commence par une division interne. C'est tellement simple de se diviser, c'est tellement simple de constater ces échecs ou ces désaccords. C'est beaucoup plus compliqué de créer ensemble une force politique nouvelle. Et je pense que nous sommes encore capables de le faire. Nous verrons bien, ce seront les travaux de cet automne.
François Fillon a accumulé jusqu'à son élimination au premier tour un trésor de guerre de 3 millions d'euros grâce à son micro-parti. Est-ce qu'il doit rendre l'argent aujourd'hui aux Républicains qui, eux, ont plutôt tendance à en manquer d'argent?
Écoutez, Gilles Carrez a été mandaté, je pense, pour essayer de régler cela. Oui, je pense qu'une...
Non, mais on en est là, il faut envoyer des envoyés spéciaux pour parler à François Fillon aujourd'hui.
Je n'en sais rien, je ne suis pas du tout...
Vous ne lui parlez plus à François Fillon?
Je n'ai pas eu François Fillon depuis son départ, non.
Quelqu'un lui parle?
Mais je ne sais pas, poser la question à d'autres...
Bon, mais il faut envoyer aujourd'hui un casque bleu pour récupérer
l'argent.
Écoutez,
un échec comme ça, c'est pas rien. Hein. Un échec comme ça, oui. C'est pas rien. Un échec comme ça, ça fait exploser tout le monde. Ça a emmené au tapis beaucoup de députés. Ça a changé la politique de la France. Ça change la politique de la France. Ce ne serait pas la même politique qui serait menée si nous étions aujourd'hui au pouvoir. Ce serait une politique de compétitivité, d'attractivité, d'autorité probablement plus importante. Tous ces sujets ont des conséquences immédiates et directes.
Thomas Legrand.
Les deux candidats issus de ces présidentielles sont issus de... qui sont issus des primaires ont perdu dès le premier tour pour des raisons différentes. Est-ce que ça condamne les primaires? Est-ce que c'est fini les primaires?
En fait, il fallait faire 2,5 aux primaires pour réussir. Mais ça, on le sait qu'après, tous ceux qui ont fait plus que 2,5 sont les grands perdants.
Il y avait eu Manuel Valls, 5 aux primaires, Premier ministre. Et maintenant,
il faut en tout cas réfléchir certainement à cela. La primaire, elle radicalise les choses.
Le maire de
Maintenant, il faut trouver les moyens de sélectionner un candidat. Avant, c'était le premier tour de la présidentielle qui était une forme de primaire. Aujourd'hui, il y a au moins un tripartisme avec le Front National. Donc le premier tour de la présidentielle ne peut pas être une primaire pour une famille politique. Donc il faut trouver les moyens de désigner de la manière démocratique un candidat. Mais vous savez, on n'en est pas là. L'idée, c'est de savoir comment, aujourd'hui, on redonne vie aux valeurs de la droite.
Je voudrais qu'on dise
du centre.
Un mot, puisque vous parlez du centre, justement, Éric Woerth, de Simone Veil. Quelle trace elle laisse pour vous aujourd'hui? Première question. Et la seconde, doit-elle reposer au Panthéon, comme certains de vos amis politiques le demandent depuis la fin de la semaine dernière?
D'abord une trace gigantesque, parce qu'elle était à l'époque une des rares femmes politiques, il y en avait très peu, et elle a réussi à faire entendre sa voix, ce qui était pas si simple sur un sujet qui était, le moins qu'on puisse dire, pas partagé. Et quand on entend et quand on regarde les débats de l'époque, il y avait beaucoup de moqueries, voire bien plus. Donc elle a réussi à résister à cela, à faire passer ses idées, qui étaient des idées fondamentales pour le droit des femmes. Ça a été une femme exceptionnelle. Comme beaucoup, et son passé est un passé évidemment exceptionnel. Comme beaucoup de monde, je pense que c'est une référence dans la vie politique. Il n'y en a pas tant que ça, et c'est une référence totale. Sur le Panthéon, je pense que c'est à sa famille d'en décider. À partir du moment où le gouvernement est ouvert à cela, je pense que c'est réellement à sa famille. Et c'est une famille... j'ai connu aussi le mari de Simone Veil, Antoine Veil, qui était un homme tout à fait formidable. Voilà, les enfants de Simone Veil ont aussi beaucoup de responsabilités. Et je pense voilà, que c'est très important d'avoir des repères comme cela. On manque tellement de repères aujourd'hui. On confond tout et on dégrade tout. Aujourd'hui, Simone Veil, elle remet de la hauteur dans le pays.
Merci Eric Vaud. Vous restez avec nous encore quelques instants. Si vous voulez bien, on va accueillir
un nouveau... Bien sûr, c'est vous qui le voulez.
Mais bien sûr, vous êtes le bienvenu jusqu'à 9h.